I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 556 du podcast Touch en Actuel. On m'a été très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief à mes côtés. Lucas Vola est à nouveau là, on l'a dit, c'est la Lucas Week. Bonjour Lucas.
Oui, toujours là. Salut Alain, salut tout le monde.
Il n'a pas bougé, hein, je peux même vous le dire, je l'appelle.
Ça fait 24 heures.
Il est là. Bonjour Lucas, j'espère que ça va toujours bien du coup depuis ton siège.
Tout va bien.
Raphaël Masmejean, lui a bougé aujourd'hui. Bonjour Raphaël.
Salut messieurs.
Dans le froid et les transports parisiens problématiques.
Eh ben, sache que du coup, depuis quelques temps, je ne vais plus au travail qu'à vélo, malgré le froid.
Parce attends, il faisait moins 3 aujourd'hui. T'es...
Ouais, mais c'est tellement devenu l'enfer. Coucou Valérie Pécresse, que voilà.
Okay,
on prend le vélo. Mais du coup, merci la planète, je crois, un truc comme ça.
Bah ouais. Raphaël, en deuil de son réseau de transport métropolitain préféré, qui était le meilleur du monde, mais qui est actuellement en difficulté. C'est comme les franchises, peut-être que tu vois, c'est une phase un peu passagère. Bon, après, là, je te garantis rien parce que. Ils viennent de drafter, comment il s'appelle
Castex.
Voilà, ils viennent de drafter Jean Castex quand même. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ton franchise quarterback de la RATP. Hein. Il va falloir peut-être attendre pour revenir plus haut. Voilà donc, en tout cas, pour la preview de la semaine pour la RATP, on va passer au débrief des matchs NFL. Et c'est tout de suite.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Est-ce qu'on devrait lancer une émission, tu sais, un petit peu l'actualité vue sous un angle sportif ? Jean Castex va-t-il drafter des nouveaux conducteurs de métro ? Buccaneers, 49ers, ou plutôt dans l'autre sens, puisque c'est les 49ers qui recevaient. 49ers 35, Buccaneers 7, première réussie pour Brock Purdy, et c'est tout San Francisco qui garde espoir, messieurs. Brock Purdy, 16 sur 21, 185 yards, 2 touchdowns, aucune interception. C'était propre, il a couru 2 fois, mais surtout il a marqué un touchdown au sol. Eh bien, est-ce que ça y est ? Est-ce qu'on ne s'inquiète même pas pour San Francisco ? 35-7, bim, il n'y a pas de problème, ça continue, ils sont toujours prétendants. Raphaël.
Oui, ils sont toujours prétendants. J'ai envie de dire qu'ils le sont quand même plus par la défense que par Brock Purdy, mais on y reviendra sans doute. Après, forcément, c'est rassurant d'avoir cette première titularisation qui se passe de cette manière. Et peut-être le plus rassurant, en fait, c'est plus, j'ai envie de dire, sur les qualités qu'a montré Purdy, et notamment je trouvais une gestion de la poche assez bonne et assez intelligente de sa part, et c'est peut-être là où c'est rassurant, c'est qu'on n'a pas senti un jeune quarterback seulement, j'ai envie de dire, porté par ses coéquipiers, mais qui arrivait vraiment à miser sur ses qualités à lui, bonne gestion de la poche, quelques lancers assez intéressants, précis, donc c'est là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'on n'a pas... On va dire que c'est pas un match où il est moyen et que t'as Deebo Samuel et compagnie qui font 200 yards chacun et tout le monde le porte. Donc ouais, Après, voilà, certains sont pas très étonnés parce que système Shanahan et que Shanahan a toujours plus ou moins obtenu le minimum de ses quarterbacks, on va dire ça comme ça. Mais bon, bonne nouvelle.
C'était ma question suivante. Ouais, Lucas, le système Shanahan, il a l'air de pouvoir faire tourner n'importe quel quarterback, en fait, quoi.
N'importe quel quarterback, je sais pas. Après, c'est un joueur qui est quand même dans ce système-là depuis quelques semaines aussi, donc qui a pu plus ou moins s'adapter. On le sait, c'est un rookie, mais on est en 14e semaine. En plus, Trellen s'est blessé, donc il savait déjà, forcément, il était, après être l'option numéro 3, il était l'option numéro 2. Donc forcément, on se prépare aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer, notamment les quarterbacks. Après, c'est certainement que le système, il fait beaucoup. Les joueurs qui sont autour, ils font beaucoup. McCaffrey, Kittle, Samuel s'est blessé un peu, mais Ayuk est très bon. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'il est dans une situation tout de même idéale. Après, je suis d'accord avec Raphaël, pour le coup, il a des traits, des atouts, des qualités qui sont un peu surprenantes compte tenu du fait que c'est un star rookie. Il est calme, il gère bien la poche. On l'avait vu déjà un petit peu la semaine dernière, on l'avait dit, mais bon, on se disait qu'il venait de rentrer, donc il fallait voir un peu la suite. On continuera d'attendre la suite, comme tu le disais, Alain, aussi, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que sur cette première titularisation, il a été impressionnant. Sans être exceptionnel, il a été impressionnant.
Évidemment, hein, il y a un énorme match défensif, comme le disait Raphaël, mine de rien, puisqu'il limite Tampa Bay à 7 points. Autre paramètre qui est intéressant, c'est Christian McCaffrey, mine de rien, qui est en train de prendre du rythme et de signer des matchs de plus en plus efficaces. 14 courses, 119 yards, ça fait un petit 8,5 yards par course, hein, quand même. Un touchdown, deux courses pour 34 yards, un autre touchdown. Christian McCaffrey, c'est aussi un des atouts qui fait que cette attaque peut garder un niveau quasiment constant, Raphaël.
Oui, bah, il est en train de devenir et d'atteindre le niveau de performance qu'on attendait de lui, en tout cas pour quand San Francisco a tradé pour le faire venir cette année. Donc oui, il permet de garder un niveau constant en attaque parce que c'est un outil de plus, forcément. Maintenant, je sais pas si tous les matchs au sol seront aussi efficaces que celui-là, parce que 8,5 de yards par portée, c'est un poil insolent et t'as quand même du mal à le reproduire chaque semaine en NFL. Donc, mais oui, bien sûr, bah c'est l'arme en plus qu'on attendait dans cette attaque. Ouais, oui.
On disait, hein, y a pas une match 28-0 à la pause pour les 49ers. Parce que, on le disait encore une fois, ça défend très très fort. Tom Brady doit lancer 55 ballons alors qu'il y a eu que 19 courses. Alors forcément, il court derrière le score. Hein. 253 yards, un touchdown, deux interceptions. Ils ont un gros touchdown qui est annulé pour une pénalité en début de match. Bon, je ne sais pas si on peut dire que ça leur coupe les pattes, parce que quand on voit le reste du match, bon, ça ne s'est peut-être pas joué à ça. On peut peut-être même se dire d'ailleurs que c'était le gros touchdown de l'anomalie. Pourquoi ils n'avancent pas, Lucas ? Il y a 7 quarterback hits, deux interceptions. Il y a un Brady qui est touché à la main à un moment, mais... Est-ce qu'on est toujours encore en train de chercher des solutions ?
Oui, on cherche vraiment des solutions. La semaine dernière, ça avait gagné de manière quasi miraculeuse. Cette semaine, face à une défense encore meilleure, ils n'étaient pas invités. L'attaque, elle est... J'ai même plus envie de dire qu'elle cherche des solutions. Elle n'en a pas trouvé et je ne suis pas sûr qu'elle en retrouve. Premièrement, la ligne offensive, elle est quand même bien moins bonne par rapport à l'année dernière. C'est ce qui aidait beaucoup dans le jeu au sol notamment. Et l'année dernière, il y a 2 ans même, puisque c'est il y a 2 ans qu'ils sont champions. C'est ce qui aidait beaucoup dans le jeu au sol, dans la protection de Brady. On le sait, il aime bien avoir, si ce n'est du temps, mais se sentir confortable. Il ne lui faut pas beaucoup de temps, mais il faut qu'au moins qu'il se sente confortable. Et dans cette ligne offensive-là, c'est de moins en moins bien. On le voit, le jeu au sol est devenu quasi inexistant. Alors là, certes, ils sont derrière très rapidement, donc forcément, il faut beaucoup lancer. Mais on le voit, le jeu au sol est moins bon. Et derrière, Brady fait ce qu'il peut. Il est certainement aussi en train d'être un peu moins bon que ce qu'il a été. Je pense qu'il est encore compétitif, mais il n'est plus certainement le Brady qu'il a été à pouvoir porter une équipe tout seul. Et puis voilà, il y a des pénalités, il y a des momentum qui ne tournent pas dans leur faveur, tu l'as dit. Alors en effet, ça coûte pas les pattes, mais ce touchdown de Mike Evans aurait fait du bien d'entrer, notamment. Ça leur aurait permis de construire sur ce qu'ils avaient fini face aux Saints. Et là, pour le coup, ils n'y arrivent pas et ça donne le résultat qu'on a vu dimanche.
Brady, pas aidé aussi par les pénalités. Hein, tu parlais de la ligne offensive qui est en difficulté. Donovan Smith, beau symbole, parce que c'est lui qui est pénalisé sur ce long touchdown. C'est la 9e fois de la saison qu'il est pénalisé, Donovan Smith. Raphaël, la ligne offensive comme base du problème ?
Oui. Grosse partie du problème, effectivement. Elle n'est plus du tout efficace contre la course et elle l'est beaucoup moins contre la passe. Donc forcément, ça vient déstabiliser tout ce système. Et un Brady qui, bah forcément, qui peut plus se permettre d'avoir une ligne en difficulté, qui a plus forcément la capacité à manœuvrer peut-être aussi bien dans la poche qu'avant, quand il a pu avoir quelquefois des lignes offensives en difficulté, même si ça n'a pas toujours été son cas pour le coup. Bon, la ligne offensive, ouais. Mais même, j'ai presque envie de te dire les tranchées des deux côtés, parce qu'au final, quand tu regardes cette ligne défensive est aussi beaucoup moins impressionnante que par le passé. Contre la course, ils sont bien moins efficaces ces deux dernières années. Le pass rush a quand même pas mal disparu du côté des Buccaneers. Pas sur la saison, hein, je parle, c'est vraiment, on va dire, en dynamique de saison. Donc je crois aussi quoi, il y a cette baisse de rendement des deux côtés du ballon sur les lignes défensives et offensives qui font partie inhérente du problème, et un coaching qui est peut-être pas si inspiré que ça.
En tout cas, ça se resserre en tête de la NFC Sud. Hein. On va avoir une. Je sais pas si c'est une course au playoff passionnante vu les niveaux, mais en tout cas, c'est hyper resserré puisqu'on a Tampa 6 victoires, 7 défaites. Derrière les Panthers et les Falcons à 5 victoires, 8 défaites. Et les Saints à 4 victoires, 9 défaites. Donc ils sont toujours dans le coup, hein, les Saints, pour le titre de division à 4 victoires, 9 défaites. C'est une division assez catastrophique. Justement, on parle, tiens, des Panthers qui jouaient les Seahawks. Seahawks 24, Panthers 30 derrière les Buccaneers. Donc il y a les Panthers à un match, on l'a dit. Ils ont littéralement marché sur les Seahawks avec 223 yards cumulés pour leur coureur. Sam Darnold qui ne lance que 120 yards mais qui ne fait pas d'erreur. Ils ont eu le ballon quasiment 40 minutes. Ils ont mené 17-0 en début de match. Les Seahawks reviennent à 3 points à un moment. Il y a 27 pour Carolina. Et là, Carolina court, court, court encore et encore pour marquer, pour manger le chrono. Est-ce qu'on a la recette là pour battre Seattle qui a des signes de faiblesse ces dernières semaines, c'est-à-dire jouer physique, Lucas?
Oui, tout à l'heure, Raph parlait pour Tampa qui perdait les tranchées. Là, pour le coup, les Panthers, ils ont véritablement gagné cette bataille des tranchées qu'on aime à appeler des deux côtés. Tu l'as dit, ils ont été très bons sur la course. C'est un secteur qui leur a permis à la fois de prendre de l'avance et à la fois de le garder en gardant ce ballon, tu l'as dit, et puis aussi de maîtriser le jeu au sol des Seahawks. Alors, Kenneth Walker n'était pas là, mais ça leur a permis aussi de maîtriser ça. Et du coup, en effet, ils ont joué de manière très physique. Ils ont mis en difficulté Geno Smith, qui n'a pas été catastrophique tout le match, puisque tu l'as dit, il est revenu. Mais c'est vrai que Carolina, en tout cas, ils ont trouvé cette solution. Je ne sais pas si c'est pour battre les Seahawks, mais en tout cas, du côté des Panthers, c'est très bien pour eux parce qu'ils commencent à se recréer, on a envie de dire, une identité, puisqu'ils ont changé d'entraîneur. Et cette identité-là, celle d'être physique des deux côtés du ballon, ça peut, pourquoi pas, on l'a dit, aller en playoff, ou en tout cas, espérer jusqu'au bout.
C'est ça le plus dingue, oui, c'est qu'ils sont. Les Panthers sont aux portes des playoffs, donc après avoir enchaîné quoi? Baker Mayfield, Sam Darnold, c'était qui?
PJ
PJ
Walker.
Walker.
PJ Walker, ouais. Et qui des deux équipes a le plus de chances d'aller en playoff entre les Seahawks et les Panthers? J'ai presque entre les deux 50-50, hein.
Donc, Raphaël, inquiétude pour Seattle quand on les voit perdre le défi physique à ce point-là. Ils ont plus de jeu au sol, 3,3 yards par course, leur défense se fait ouvrir. Et Geno Smith fait ce qu'il peut, hein, et c'est lui un peu
Ouais.
le héros de cette équipe, mais là, il n'y a plus grand-chose autour, quoi, on dirait.
Ouais, là, enfin, il a eu un peu sa part de responsabilité aussi, parce qu'il a des interceptions qui sont pas forcément très bonnes à donner pour le coup. Mais comme vous dites, le problème principal, ça reste la défense. En tout cas, sur ce dernier mois, j'ai envie de dire, hein, sur les 4 dernières semaines, ils perdent 3 matchs. Et parce qu'ils sont à 28,5 points encaissés sur cette série de 4 matchs, en fait, par match en moyenne. Donc à partir du moment où tu prends 28 points par match, on peut le retourner dans tous les sens et à être guidé par à peu près n'importe quel quarterback dans la ligue. Le résultat est souvent négatif. Donc tant que la défense resserre pas le jeu, et je pense notamment, moi c'est le front seven effectivement qui me paraît vraiment en difficulté. Tant que le front seven revient pas au niveau à Seattle, ça va être compliqué d'enchaîner des victoires, sauf adversaire vraiment très faible en attaque. Mais ça va être compliqué.
Et les adversaires sont pas très faibles, hein, qui arrivent. Ils jouent 49ers, Chiefs, Jets, Rams pour terminer la saison. Ils sont à peine un match au-dessus de 50% de victoire. C'est pour ça que ça bascule de l'autre côté. Ce sera une question pour les émissions de preview, mais en tout cas, c'est compliqué pour eux. Les Panthers, ils sont mine de rien à 5 victoires et 3 défaites depuis qu'ils ont changé de coach. Petit coucou à Matt Rhule, parce qu'on disait ils ont changé trois fois de quarterback, mais ils ont changé de coach aussi. La défense qui a quelques beaux playmakers, on l'a vu avec l'interception de Jesse Horn notamment. Donc ils pourraient aller disputer la division aux Buccaneers. On verra ça dans les semaines à venir. C'est quand même un des trucs les plus. Ce serait un des trucs les plus improbables d'avoir les Panthers en playoff quand même. Hein.
Est-ce que tu as leur calendrier sur les quatre prochains matchs? Parce que
alors,
ça dépend. Est-ce qu'ils jouent? J'ai pas le souvenir de les avoir vus jouer deux fois contre les Bucks.
Ils jouent les Steelers, ils jouent les Lions, ils jouent les Buccaneers et ils jouent les Saints.
Il y a encore deux matchs de division en fin de. Pourquoi pas, comme tu l'as
Pourquoi
dit,
pas
sur un match.
T'as les Steelers derrière là qui ont Kenny Pickett qui est blessé. Les Lions, bon, ça va être difficile, mais Buccaneers et Saints, au moins ils jouent les adversaires directs. Hein, donc ça va être. Parce que les Bucks, eux, ils jouent les Bengals, les Cardinals, les Panthers et les Falcons. Donc ça va pas être facile. Après, s'ils battent les Buccaneers dans leur opposition directe, ils auront le tiebreaker en plus, je crois. Donc ça va être un mine de rien. Ça va être parce qu'ils ont battu les Buccaneers 21-3 hein, dans le premier match, quand même, les Panthers. Bon. Je vous laisse ça pour les émissions preview, mais ouais, il y aura pas mal de choses à dire. Les Giants 22, Eagles 48. Alors là, celui-là, on n'a pas fait dans le détail non plus. Hein, 24-7 à la pause, 41-14 dans le quatrième quart. Les Eagles sont déroulés. 253 yards au sol au total, 2 touchdowns à la passe pour Jalen Hurts en plus. Là, on est plus dans le constat que dans la question, messieurs, mais j'ai l'impression que cette attaque de Philadelphie, elle peut tout faire.
Ah, clairement, on en a là clairement l'image parfaite. Première mi-temps dans les airs, deuxième mi-temps au sol. Vous avez besoin de quoi? Jalen Hurts vous le fait, vous le donne. Qu'est-ce que la défense propose? Jalen Hurts le donne aussi. Voilà, je veux pas trop. On parlait des missions previews, je veux pas trop anticiper et spoiler.
Oui, vous
mais
avez beaucoup parlé de Philly.
C'est vrai que cette attaque-là, elle est impressionnante et on ne parle que de l'attaque.
C'est vrai que dans l'émission preview, on va parler de Philadelphie, donc on va pas, surtout sur ce scénario de match, il n'y a pas mille choses à dire. Ils ont 7 sacs en défense aussi, Raphaël, pour aller sur les Giants. Saquon Barkley n'était pas à fond, donc ils étaient cuits, quoi, grosso modo.
Ouais, oui, il y a un peu de ça. C'est une équipe de New York qui était enfin, on sentait ces dernières semaines qui était un peu en difficulté, même si le match nul contre Washington nous avait rassuré. Ouais, je ne sais pas si c'est le terme, mais. Ouais, le jeu offensif s'installe pas, la ligne offensive craque complètement, et derrière, bah, Daniel Jones est un quarterback limité, on le sait, on le voit, et en plus, pour ne pas l'aider, il a vraiment pas de grande cible, enfin, il a pas de grand receveur pour l'aider. Je veux dire, quand à côté, tu compares avec ce avec qui peut jouer Jalen Hurts, bah, forcément, c'est compliqué de pouvoir suivre. Donc, oui, c'est l'équipe de New York. Pareil, j'ai envie de te dire, pas grande. On n'apprend pas grand-chose en fait sur ces Giants-là non plus. C'est une équipe bien coachée et qui a des limites en attaque. Et voilà, ils vivent et meurent avec ça.
Bah, c'est un peu le revers de la médaille. On parle là beaucoup des dynamiques positives, notamment qu'on met en avant dans les débuts d'émission, etc. Je pense que dans le débrief la semaine prochaine, il se pourrait que ce soit un peu la confirmation des chutes de New York, de Seattle, des équipes qui étaient un peu sur une très belle vague au début de l'année et qui là sont un peu en train de retomber sur terre quand même au cœur de l'hiver. Les Giants en font partie, tu disais, il y a eu sursaut face aux Commanders, mais voilà, Seattle ça retombe, les Jets ça retombe, il y a quelques hypes comme ça de début de saison qui sont en train de retomber un petit peu sur terre, même si ça restera des saisons honorables, hein, mais je pense que ouais, pour les Giants, tu vois forcément toutes les limitations face à une équipe de ce niveau-là, quoi. Ils prennent 7 sacs, il y a plus de jeu. Enfin, tu me diras, il y a un peu de jeu au sol. Ils réutilisent un peu le jeu au sol, mais bon, tu le disais, ça reste hyper, hyper limité. Et après, il reste les mêmes questions, quoi. Daniel Jones.
Oui, et puis, ils viennent de jouer contre leurs trois adversaires de division. Il n'y a aucune victoire. Il y a deux défaites, un match nul. Ça aussi, c'est à voir parce que bon, c'est les équipes auxquelles elles se mesurent année après année. Et puis, il faudrait voir parce qu'en effet, il y avait cette lune de miel un petit peu avec Brian Daboll. On va voir comment ça tient, les équipes qui commencent à s'adapter un petit peu. Voilà, il faut voir. Pourquoi pas essayer de finir un peu mieux cette saison. Ouais.
On enchaîne avec les Cardinals 13, New England Patriots 27. C'était le match du lundi soir. Un match marqué malheureusement surtout par une blessure, celle de Kyler Murray qui se fait les ligaments. Alors on l'a pas au moment où on enregistre. Je veux pas m'avancer, on sait jamais qu'il y a une bonne surprise à l'IRM. Ça arrive une fois sur 100. Mais voilà, a priori, ligament croisé déchiré, fin de saison. Et du coup, en plus, probablement quasiment une année de récupération, rééducation, etc. Donc, course contre la montre pour être prêt pour le début de la saison suivante. Bon, fin en queue de poisson pour une saison qui était quand même déjà catastrophique pour Arizona. Est-ce que ça remet des choses en cause sur la suite, au sens où ça reste quand même Kyler Murray qui a le plus gros contrat? Là, on ne va pas parler tout de suite du match, mais on est obligé de parler de l'avenir des Cardinals. C'est lui qui a le gros contrat. Cliff Kingsbury semble quand même jouer ses derniers matchs avec les Cardinals, Raphaël.
Bah, j'espère que cette situation, que j'espère que Kingsbury et son GM vont pas utiliser le côté Hopkins n'était pas là les 5-6 premiers matchs, Murray en a loupé 4-5 pour essayer de se sortir de tout ça. Parce que encore une fois, comme tu dis, la saison a suffisamment, à mon sens, montré que c'était mal coaché. Et une stat m'a particulièrement frappé. Je trouve qu'elle illustre pas mal quand même ce problème de coaching, et surtout pour le soi-disant génie Kingsbury. Les Cardinals sont à 0 sur 21 sur les troisièmes tentatives de plus de 10 yards. Leurs 21 dernières tentatives troisième tentative de plus de 10 yards, ils n'arrivent pas à les convertir. Et quoi qu'on en dise sur le casting offensif des Cardinals, quand tu as Colt McCoy ou Kyler Murray qui lance, quand tu as Hopkins, Marquise Brown, Robbie Anderson, etc., James Conner même au sol qui sait courir, ne pas être capable d'attraper des troisièmes tentatives de 10 yards, je trouve que c'est assez significatif sur en fait un génie offensif qui n'en est pas un, en fait. Enfin, tout simplement.
Ah bah, clairement, il n'y a pas l'excuse du matos par rapport à certaines équipes.
Donc voilà, pour moi, ça ne fait qu'illustrer que ça. Donc, bon,
next. Quoi. C'est ça.
Et puis surtout pour rattacher un petit peu au match, les Patriots, ils ont à minima cet aspect-là, c'est que quand c'est mal coaché, ça se voit. Parce que en face, voilà, il y a les défauts qu'il y a aux Patriots, mais c'est relativement souvent bien coaché, et en tout cas, c'est souvent dans le bon cadre. Et quand en face, ça joue contre une équipe qui l'est un peu moins, ben ça se paye cash, et on le voit. Alors il y a beaucoup d'erreurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi qui sont dues au coaching. Et comme le disait Raph, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de progression dans cette équipe-là depuis que Kingsbury est là. Et puis il y a beaucoup de choses qui reposent sur Kyler Murray. Donc c'est vrai que ce match-là, il est vraiment pas, c'est vraiment pas une aide pour le coach.
Excusez-moi, je me suis perdu dans mes pensées.
Sur les Patriots.
Oui, les Patriots, excusez-moi, les Patriots. Donc, Mac Jones, Matt Patricia, ça va un petit peu mieux. Bon, c'est pas encore là.
Ouais.
La panacée, comme dirait notre camarade Raoul, mais.
Trop bon, gentil, mais.
Oui, j'essaie d'être dans une vibe positive, tu sais, en ce moment. Je dois aller affronter la RATP demain, tu le sais, donc je préfère être positif. Non, mais bon, 24 sur 35, ouais. Une interception, il n'y a pas de touchdown, ça reste poussif, hein, évidemment, ça reste basé sur le sol.
Ouais, je.
Raphaël écoute... n'est pas convaincu. Lucas, est-ce que tu vois du positif?
Je vois du positif, pas forcément en attaque. Je vois du positif dans le fait qu'il y avait pas mal de blessés et que cette équipe-là, même derrière, même en défense, pardon, elle a réussi tout de même à sortir un bon match. Il y a du positif dans le fait que ce qui tournait notamment bien l'année dernière, quand il y avait des fumbles à récupérer, quand il y avait des touchdowns à marquer sur certaines situations, ça tourne de nouveau. Après, en attaque, oui, c'est un petit peu mieux que ce qu'on a pu voir. Maintenant, c'est pas incroyable. Le positif, il est pas. On attend de voir sur plusieurs semaines et voire même sur un adversaire un peu meilleur en défense pour voir s'il y a une vraie progression en attaque.
Et les satisfactions sont suffisamment, surtout défensives. Alors, notamment, je pense à Josh Uche qui réalise 3 sacks. Je crois que Matthew Judon a dit lui-même, en fait, c'est pas moi le meilleur pass rusher de cette équipe, c'est Josh Uche. Bon, quand il y a 3 sacs, c'est facile
bon
à dire.
Coéquipier, quel bon voilà. Coéquipier de mettre en avant les autres. Non, mais je rejoins ce que Lucas a dit. Et finalement, ton constat, les bonnes choses sont avant tout en défense. Parce que moi, en attaque, sincèrement, je ne comprends pas encore très bien ce que fait Matt Patricia et ce qu'ils essayent d'obtenir de Mac Jones. Et il y a des choix de joueurs. Enfin, il y a une escouade en fait de receveurs. Je sais pas ce qu'ils leur demandent. Je sais pas quel rôle ils attendent de leurs receveurs. En fait, pareil, ils ont signé il y a 2 ans à gros coup de billets Hunter Henry et Jonnu Smith. Ils sont quand même utilisés avec une parcimonie. Alors, je sais pas si à l'époque quand ils les ont fait venir, je pense qu'ils avaient pas calculé que ça serait Matt Patricia qui devrait jouer avec 2 tight ends, mais. Et que Matt Patricia, c'est peut-être pas utiliser un système à 2 tight ends, tu vois, j'en sais rien, mais
bon,
moi, je
de toute
suis.
Façon, l'année dernière, ils étaient pas beaucoup plus, ils étaient pas beaucoup
non.
plus productifs.
Non, mais circonspect total.
Après, il y a un Pierre Strong qui sort un peu aussi du lot pour la première fois. Voilà, c'est des petites. Si on cherche des petits points d'optimisme en attaque, peut-être qu'ils sont
Ouais,
à trouver.
Pierre Strong, ça, c'est un classique Belichick, c'est-à-dire que c'est toujours sortir le coureur que les gens n'ont pas en fantasy. Tu vois, c'est genre, alors j'ai 14 mecs, là, il y en a un qui tournait bien la semaine dernière, je vais faire tourner l'autre plutôt.
Après, il y a une règle en fantasy tout de même, c'est de ne pas prendre les running backs des Patriots. Hein,
Clairement,
c'est la
clairement.
règle numéro 1.
Ceci étant dit, on a un mec dans la ligue, nous, qui s'est bien amusé avec Ramondre Stevenson pendant quelques semaines, il avait plutôt pas
Pendant
mal
quelques
scoré.
semaines.
Mais disons que voilà, le problème des running backs des Patriots, c'est qu'il faut savoir le bon moment où tu dois le lâcher.
Ouais.
C'est des séquences de 3-4 semaines, quoi. Bon, voilà pour ce match entre les Cardinals et les Patriots. Petite pause et la suite.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On passe dans la conférence AFC, en tout cas totalement en AFC avec deux équipes de cette conférence, les Bills 20, les Jets 12. Beaucoup, beaucoup de punts dans ce match. Il y a eu une séquence de 10 punts consécutifs à un moment cumulé entre les deux équipes. Les Bills qui ont fait beaucoup de mal à Mike White au point qu'il a dû passer par l'hôpital en fin de match. Heureusement, il va bien, il a des douleurs aux côtes, il devrait jouer normalement le prochain match. On peut dire, partant de ce constat-là, que c'est une victoire défensive des Bills, Raphaël.
Oui, victoire défensive, effectivement, ils ont réussi à bien stopper le jeu au sol des Jets et aussi le jeu aérien hein, de manière globale qui était peut-être un peu plus performant ces dernières semaines avec Mike White. Après, conditions climatiques difficiles hein, aussi pour les attaques qui n'ont probablement pas aidé tout ce monde-là à se mettre en jambes.
Sorte de pluie-neige, on rappelle.
Ouais, de pluie-neige, ça avait l'air venteux aussi un peu hein,
Oui, aussi, oui.
sur les images.
C'était Buffalo en décembre, quoi.
Ouais, oui, complètement. C'était Buffalo en décembre, effectivement. Donc oui, victoire avant tout défensive, avec un pass rush assez omniprésent. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, pour Buffalo, même si ça rassure pas forcément sur l'attaque de ces dernières semaines.
Ben c'est ça, en défense, ils ont 7 joueurs qui ont au moins 3 pressions sur le quarterback. White était sous pression sur 40,4% de ses tentatives de passe. Donc là, clairement, c'était très très fort. Mais en attaque, ça continue de peiner, Lucas. On a un Josh Allen qui a 147 yards pour un touchdown. Ça lui est pas arrivé souvent d'avoir aussi peu de yards. Hein.
Oui, je pense que c'est plutôt, il faut regarder plutôt ces statistiques-là à la lumière de l'adversité tout de même, parce que ça fait deux matchs qu'il joue contre les Jets, c'est deux matchs que Josh Allen galère complètement. Le premier, il l'avait perdu même, ils avaient marqué que 17 points ou quelque chose comme ça, et on s'était posé les mêmes questions. Et puis dans la foulée, ils avaient affronté les Vikings, ils en avaient mis 30 ou 33, ils avaient affronté une autre, les Browns, je crois qu'ils en avaient mis 30. Et puis ça rejoue contre les Jets, et puis ils galèrent de nouveau. Je pense que vraiment New York a pour le coup la capacité à jouer et à rendre cette attaque des Bills un peu plus lente, les faire galérer. Et donc c'est pour ça. Et puis en plus, on parlait des conditions climatiques. On le sait, ça aide un peu plus les défenses d'une part. Et puis je pense que s'il y a bien une équipe qui aime bien aussi jouer dans ces conditions-là, pour niveler un peu tout ça, ça peut être les Jets. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet pour Josh Allen, sauf qu'on se dit que potentiellement, Josh Allen pourrait jouer les Jets en playoff. Pourquoi pas si les Jets se qualifient sur une septième place. Donc il faut être capable de battre ces équipes-là. Ils l'ont fait. Après, c'est vrai qu'offensivement, ça n'a pas été explosif, mais bon, au moins, ils ont d'autres atouts pour gagner.
Je serais un peu plus inquiet que toi, tu vois. Je trouve que depuis quelques semaines, quand même, c'est un peu fébrile par moment, Raphaël, parce que moi, c'est le manque de profondeur qui m'embête.
Je te rejoins aussi un peu. Le match contre Détroit avait pas été très bon en attaque. Le match contre Minnesota, il y a 30 points, mais Josh Allen lance deux interceptions un peu vilaines. Il s'en sort grâce à son jeu au sol, hein, notamment. Mais ce qui fait partie de son jeu, donc ne lui retirons pas. Mais je trouve que sur la passe, il est un peu plus en difficulté ce dernier mois, on va dire ça comme ça. Il est un peu plus en difficulté. Après, j'entends hein, que sur ce match-là en particulier, il y a l'excellente défense de New York qui facilite pas du tout la tâche et qui te permet pas forcément de te relancer à ce niveau-là. Mais ouais, je le trouve un peu plus en difficulté. Et comme tu dis, il y a ce problème des squads de receveurs qui performent pas au niveau attendu et souhaité. Je me rappelle qu'en début de saison avec Victor, on avait parlé de Gabe Davis et moi je remettais un peu en cause Gabe Davis et j'étais déçu. Bah je continue à penser que Gabe Davis assure pas son rôle de numéro 2 et c'est pas pour rien si les Bills vont chercher Cole Beasley au milieu de sa retraite. Alors bon, je suis pas sûr que Cole Beasley va tout changer du jour au lendemain.
Non, Mais clairement, je suis d'accord avec toi,
Mais c'est
cette signature,
significatif.
c'est pas un hasard, c'est qu'il leur manque quand même. Odell Beckham était dans les rumeurs aussi, d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises, à l'époque où il faisait sa petite tournée. Donc ouais, moi je suis un peu plus inquiet par ce manque de profondeur là. Après, en effet, il y a une très bonne équipe en face, il y a des conditions difficiles, hein, mais voilà. Agree to disagree avec toi, Lucas.
Totalement, oui. Je vous trouve un peu dur. C'est une équipe qui continue de gagner des matchs, qui marque des points. Alors, un peu, pas forcément comme vous l'espériez ou comme on l'espérait, mais c'est une équipe qui marque des points, qui marque beaucoup de points la plupart du temps. À voir, il reste quelques matchs. Il y a les Dolphins la semaine prochaine, donc à voir, ouais.
Vous avez vu comme on est vraiment pas une bonne émission de talk clash et tout, parce qu'à la fin du truc, on fait, écoute, soyons d'accord pour ne pas être d'accord. Oui, moi aussi, écoute, passons
Ouais,
au prochain
on
match.
pourrait terminer. Non mais Raphaël, tu dis vraiment n'importe quoi. Je pense
Mais
que tu
oui.
regardes pas les matchs. Je pense que c'est pas le bon Josh Allen que tu regardes. Je pense que c'est celui des Jaguars. Forcément, il est pas
Mais
bon à la passe.
je vais vous le dire parce que je me permets, Lucas, de dévoiler un peu les coulisses, mais ça s'est passé même, ça se passe même des fois sur le chat de la rédaction où Lucas donne des avis pondérés et les gens lui disent, mais tu te tranches pas assez et tout ça. Et il dit, bah oui, mais moi, je suis pas réseaux sociaux ou quoi, et voilà. Mais oui, mais
J'apprends, j'apprends.
non, mais voilà, au moins ça vous montre qu'on se force pas. Les Jets, donc on l'a dit, ça a été dur pour Mike White. Ils se battent, il leur manque quoi du coup? C'est l'absence de Breece Hall qui fait aussi peut-être un peu mal, ou là c'est vraiment qu'ils sont face à une équipe qui est plus forte aussi quand même, hein, mine de rien. Il y a un fond de jeu qui est costaud à Buffalo.
Que c'est ça, je crois que c'est ça. Ils sont juste face à une équipe plus forte qui a plus de profondeur et de joueurs de qualité, notamment en attaque. Il y a aussi des blessures sur la ligne offensive des Jets. Voilà, il manque un peu de monde et ils sont moins forts. Ils perdent contre plus fort. C'est aussi simple que ça, des fois, je crois.
Eh bien, en parlant de victoire du plus fort, les Bengals 23, Browns 10. Cincinnati a mené ce match de bout en bout. Gros Ja'Marr Chase qui nous capte quand même 10 ballons pour 119 yards d'un touchdown. Joe Burrow 18 passes réussies sur 33 pour 239 yards, 2 touchdowns, une interception. Mais est-ce que ce n'est pas aussi d'abord une victoire défensive, un peu comme Buffalo? Ils ont très très bien limité la force de l'adversaire, c'est-à-dire le jeu au sol. Ils avaient pris 140 yards au sol au match aller, et là ils ont bien calmé Nick Chubb, qui est seulement à 2,4 yards par course, et ça a l'air de faire la différence, Lucas.
Oui, clairement. J'ai l'impression que les Bengals, ils sont en train de cocher toutes les cases pour les ramener à ce qu'ils étaient l'année dernière et les ramener à une équipe complète. C'est-à-dire que on les avait vus. Alors dès le début de la saison, le jeu aérien a été bon et ça n'a pas forcément fait mouche d'entrée, mais ça a fini par vraiment se mettre en place. Puis on se disait la défense est un peu inquiétante et puis on se disait le jeu au sol est encore un peu disparu. Puis il y a quelques semaines, et notamment la semaine dernière, on les voit de mieux en mieux dans le jeu au sol, même quand Joe Mixon n'est pas là. Et puis la défense la montre qu'elle revient au niveau où elle était, capable de maintenir une attaque alors qui certes n'est pas hyper explosive et qui va certainement elle va certainement affronter des meilleures attaques, mais cette défense-là, elle commence à monter en puissance et elle monte en puissance au meilleur des moments, capable d'arrêter une des forces de l'équipe adverse, donc c'est que bon signe pour les Bengals.
Ouais, Raphaël, pareil, il suffisait entre guillemets. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, il suffisait de stopper la force de l'adversaire. Mais en effet, les Bengals le font bien et ils sont en train de s'imposer comme une équipe très costaud là. C'est une équipe complète qui arrive en playoff. Joe Mixon est revenu là quasiment 100 yards. La défense est solide.
Ouais, non, mais Lucas a tout dit hein, sur ces Bengals qui deviennent performants dans tous les secteurs de jeu. Oui, ça ressemble à l'équipe qu'on a vue l'an dernier. Donc, enfin, ils arrivent à ce niveau-là au meilleur moment, quoi.
L'attraction en face, évidemment, ou en tout cas l'intérêt, la curiosité, on va dire, attraction, c'est un mot qui m'embête pour lui. Deshaun Watson, 26 sur 42, 276 yards, un touchdown, une interception. Il y a du mieux sur son niveau sportif.
Ouais, il y a du mieux effectivement, un peu plus de lancer en rythme, j'ai envie de dire, et précis que la semaine dernière. Une gestion de la poche qui reste encore hasardeuse, peut-être aussi l'habitude avec ses linemen à trouver malgré tout. Parce que oui, il avait fait 2-3 matchs de pré-saison, mais enfin la pré-saison, on sait aussi ce que c'est. Voilà. Donc ouais, ça s'améliore. Après le Malgré tout, je reste toujours sceptique quand tu donnes autant peu de ballons à Nick Chubb, mais j'entends la moyenne qui n'était pas très bonne, mais j'aurais quand même donné un poil plus, mais enfin bon,
Oui,
c'est pas non
14
plus.
courses pour Nick Chubb, 42 passes
Ouais.
pour Deshaun Watson. Watson qui a couru 6 fois pour 33 yards hein, aussi, Lucas. On le retrouve petit à petit. Là, de toute façon, c'est vraiment le but de leur fin de saison maintenant. Hein. Ils n'iront pas en playoff.
Oui, ils sont loin dans cette division, ils sont loin dans la conférence. Forcément, ils n'ont que quelques matchs, mine de rien. Paradoxalement, ils ont pas beaucoup de matchs avant la fin de la saison. Mais on voit qu'il y a du mieux entre le premier et le deuxième, en espérant qu'il y ait du mieux entre le deuxième et le troisième, et ainsi de suite, pour espérer, pour eux, en tout cas, d'avoir une équipe complète et compétitive, surtout à partir de l'année prochaine. Ouais.
9 pénalités pour 98 yards. Ils se sont quand même, dans ce match-là, en tout cas aussi, beaucoup tués avec les pénalités. C'est statistiquement, ça aurait été. Parce que c'est un match où ils sont assez proches statistiquement, si tu regardes vraiment à la louche les stats de yards, etc. Ils se tuent pas particulièrement dans le jeu. Ils perdent un ballon, les Bengals perdent un ballon aussi. Et ils prennent que 23 points, finalement, l'un dans l'autre. Hein, ça aurait pu être pire aussi. Mais il y a 98 yards de pénalités qui leur font très très mal. Donc ce sera aussi des problèmes de discipline à corriger du côté de Cleveland. Les Broncos 28, les Chiefs 34. Vous avez bien entendu, les Broncos 28. Incroyable. Les Chiefs menaient 27-0 dans le second quart, tout semblait réglé. Et voilà que les Broncos se réveillent. Ils marquent 21 points de suite grâce à Russell Wilson, Jerry Jeudy, Marlon Mack. Les Chiefs, bah forcément, ils redémarrent. Ils mènent 34-21. Malheureusement, les Broncos perdent Russell Wilson sur une commotion cérébrale. Brett Ripien lance un touchdown à Jerry Jeudy. Mais les Chiefs qui réussissent à tenir le résultat. Question évidente, faut-il avoir peur pour la défense des Chiefs puisqu'ils ont pris 28 points contre les Broncos?
Elle n'est pas rassurante en tout cas. Alors c'est peut-être un des seuls matchs où les Broncos et leur attaque ont réussi tout simplement, ont réussi à faire des choses, à l'inverse de ces 13 saisons, semaines précédentes. Mais tout de même, c'est vrai que voilà, la défense des Chiefs et notamment les defensive backs, je trouve, parce que le pass rush fait ce qu'il peut, notamment avec Chris Jones, Frank Clark, et sauve un peu les meubles de temps en temps. Mais ces defensive backs m'inquiètent un petit peu, surtout quand ça va jouer contre une équipe qui prendra un petit peu moins de points que sur ce match-là et qui sera un petit peu meilleur encore en attaque, notamment en playoff.
Prendre 320 yards contre les Broncos, c'est comme en prendre 5 ou 600, non, contre notre équipe, Raphaël.
Ouais, je suis un peu circonspect, dubitatif, tout ça sur cette performance défensive. D'un côté, ça se passait très bien jusqu'à 27-0, la défense avait aucun problème.
Ils ont peut-être juste levé le pied, ouais.
Il lève un peu le pied, mais beaucoup trop malgré tout quand même. Après, à quelque part, encore une fois, les Kansas City depuis 4 ans, ça n'a jamais été une défense shutdown, on pourrait dire ça comme ça. C'est rarement une défense qui met l'adversaire en dessous de 10 points et qui ferme le match. Et c'est plus la philosophie. De toute façon, ça a souvent été la philosophie Spagnolo, c'est pass rush et comment dire, on plie, mais on rompt pas parce qu'on fait on fait ce qu'il faut pour changer la donne en termes de turnover. Donc, je dis pas que c'est la bonne stratégie et je dis pas qu'ils vont le faire plus tard dans la saison et que ça va bien se passer. Mais malgré tout, bon, voilà, des performances défensives comme ça, ils en sortent où ils prennent des points et à la fin, ça passe quand même parce que de toute façon, c'est en attaque qu'ils les gagnent les matchs. Donc,
Il n'y a pas un seul match où ils ont limité l'adversaire à moins de 10 points cette année.
ouais, c'est pas leur style, hein. De toute façon, clairement, c'est pas leur style parce que je pense aussi, comme Lucas l'a dit, qu'ils n'ont pas les cornerbacks non plus pour le faire de toute manière. Hein. Donc,
Après, on ironise, mais c'est peut-être quand même aussi un bon signe pour l'attaque des Broncos.
ouais,
Maintenant,
mais.
l'idée, c'est de réussir à le refaire.
Le problème, c'est qu'ils sont pas vernis cette année quand même, parce que
Oui, du coup, il y a la commotion
pour
derrière.
le seul match où ça avançait à peu près, il y a une commotion. Alors certes, le quarterback remplaçant marque ce touchdown, un très beau touchdown d'ailleurs pour le troisième de Jerry Jeudy, mais c'est vrai qu'après, ben pour le coup, Russell Wilson n'est pas là sur la fin de match. Il y a une commotion. Voyons voir comment il s'en sort, mais ils ont pas beaucoup de chance. Au-delà du fait qu'ils sont pas vraiment très bons depuis le début de la saison, la chance part un peu, les échappe un peu.
Ouais, c'est vrai que c'est pas la folie de voir Russell Wilson sortir sur le seul match où il doit. Je pense que c'est le seul où il lance trois touchdowns dans cette saison.
Ah oui, c'est oui.
Vu les totaux de points, j'avoue que j'ai pas même pas pris le temps de vérifier parce que là, ça me semble assez évident. Voilà, le mieux qu'il avait fait, c'était deux contre les Raiders. Et sinon, il avait jamais lancé plus d'un touchdown par match. Quelle déprime. Donc oui, on va espérer pour les Broncos, on peut juste espérer qu'ils les refassent. Je crois que c'est la seule analyse en fait pour l'instant, Raphaël. Jerry Jeudy a sorti un gros match quand même, mine de rien. Hein. 8 réceptions, 3 touchdowns. C'est quand
Ça
même pas
faisait
mal.
longtemps.
Ouais. L'attaque des Chiefs, on n'en a pas trop parlé. Bon, il y a 3 erreurs de Patrick Mahomes, il y a des interceptions, mais il y a aussi C'est ce qu'on disait, il y a ce jeu insolent où jusqu'à mener 27-0, après il lève le pied, il y a des erreurs, etc. Bon, on ne va pas s'en faire non plus trop pour ça. Il y a la bonne participation des coureurs, hein, Pacheco, McKinnon, qui sont un peu au four et au moulin sur ce match. Donc c'est plutôt pas mal. Jojo Smith-Schuster à 9 réceptions, il se passe pas mal de choses pour cette attaque comme d'habitude. Les Steelers 14, les Ravens 16. Alors on parlait de Paverny, là c'est jeu de massacre. Hein. C'est-à-dire que les deux équipes ont terminé avec un quarterback différent de celui avec lequel elles avaient commencé le match. Les deux équipes, je pense que c'est les deux équipes les plus blessées de la ligue à l'est des 49ers, on va dire. Tyler Huntley, donc blessé, remplacé par Anthony Brown. Je vous avoue qu'on n'était pas vraiment... Je vous avoue que je n'étais pas totalement au courant qui était le troisième quarterback.
C'est un nom d'emprunt, non, Anthony?
Voilà. Ah bah, clairement, là, on est sur le joueur généré par Madden. Kenny Pickett commence, se blesse aussi. Il est remplacé par Mitchell Trubisky, alors que lui, on connaît trop bien pour le coup. Intercepté 3 fois d'ailleurs. Dans ces conditions, est-ce que tout se résumait à qui allait le mieux courir et du coup, les Ravens?
Oui, globalement, c'était ça. C'était déjà un peu annoncé avec l'absence de Lamar Jackson. Et c'est vrai que le scénario du match a fait que, et il n'y avait pas trop de doute sur le fait que les Ravens allaient mieux courir, et ça a donné le résultat qu'on connaît.
Bah et puis ils ont pour le coup, ils ont eu beaucoup d'éclopés cette saison, mais ils récupèrent leur coureur. J.K. Dobbins revient, 120 yards, un touchdown. 42 courses, 17 passes, on sent qu'il avait un plan de jeu, Raphaël, hein, John Harbaugh.
Ah bah clairement, quand déjà de base, je pense que le plan de jeu, même avec une clé, était de pas beaucoup passer, mais quand en plus il est sorti sur blessure, là, ils ont mis vraiment cette idée-là au fin fond. Ils se sont dit bah on y va au sol, ça passe. Et comme tu l'as dit, c'était la clé de la victoire sur ce match-là avec autant de quarterbacks blessés, c'était d'aller au sol. Et comme de l'autre côté, t'as une ligne offensive pas terrible et un Najee Harris pas forcément au niveau cette saison, en tout cas depuis quelques matchs.
Bah, ils avaient eu quelques bons matchs justement, mais
ouais,
c'est
un peu
traînés,
en... c'est vrai que c'est un peu en montagne russe. Donc oui, pas surprenant in fine que ce soit Baltimore qui s'en sorte à ce jeu-là grâce à son jeu au sol.
À la défense aussi quand même, très grosse prestation défensive. Roquan Smith, Patrick Quinn notamment sont un peu les hommes du match. Smith prend de plus en plus ses aises dans cette défense de Baltimore. Il est à 6 plaquages, un sac et deux passes déviées, un quarterback hit. Ça commence aussi à prendre forme un petit peu. Il y a eu des pareil, c'est Dancy aussi hein, pour la défense de Baltimore, mais sur ce match-là, ils font le taf, Lucas.
Oui, ils font le taf, tu l'as dit, Roquan Smith, pardon. On était très hypé, enfin en tout cas je l'étais quand il est arrivé à Baltimore, mais il a fallu un petit peu de temps avant qu'il prenne vraiment, vraiment on va dire la puissance qu'il avait, notamment du côté de Chicago. Mais c'est vrai que ce match symbolise vraiment sa montée en puissance, comme je le disais. Et puis voilà, il y a une défense qui certes ne jouait pas contre une attaque incroyable, mais qui a su être efficace, qui a su être bonne, qui a su provoquer des turnovers, bien défendre sur la course aussi, parce que ça faisait quelques semaines, tu l'as dit, que Najee Harris n'était pas trop mal, en tout cas le run des Steelers n'était pas trop mal. Et puis, ça a permis aussi de voir et de confirmer que Trubisky n'était pas la solution. Au moins, ça nous a permis de se dire si certains avaient quelques doutes, ben voilà, au moins les doutes, ils sont levés.
Ouais, j'allais dire, je te trouve même presque un peu dur, enfin, pas Lucien, mais à Alain, avec la défense de Baltimore, parce que au final, quand tu regardes sur les dernières semaines, en dehors du match un peu bizarre contre les Jaguars où ils se laissent remonter et tout ça. Bah, l'adversaire, il est quasiment tout le temps en dessous des 15 points.
Oui, t'as raison, en plus, ça progresse bien. Ouais.
Et même quand il faut remonter, franchement, ils prennent quoi, les 20 points contre les Browns il y a 5-6 semaines, mais sinon, pareil, hein, c'est beaucoup de matchs où l'adversaire est sous les 20 points, 25.
Non, mais
c'est quand
raison.
Même solide. Hein.
Ouais,
de toute façon,
mais...
vu le niveau de jeu ces dernières semaines de l'attaque, ils sont pas à 9-4.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils gagnent 6 de leurs 7 derniers matchs. Avec
ils sont premiers de leur division.
C'est ça, ils sont premiers de leur division avec une pluie de blessés. Parce que on parle beaucoup du boulot de Kyle Shanahan avec les blessés là des 49ers, même avec Mike Tomlin avec pas grand chose et tout. Mais John Harbaugh, ça se place là quand même aussi encore cette année avec Lamar Jackson qui fait un énorme début de saison, qui retombe, qui se blesse, qui machin. Et ils sont pas. En tout cas, ils vont être dans la lutte pour la division jusqu'au bout parce que derrière ils ont Browns, Falcons, Steelers qui sont à leur portée. Et avec une finale entre guillemets contre les Bengals la dernière semaine.
Oui, parce que c'est extrêmement paradoxal, parce que ça fait vraiment quelques semaines qu'on dit, et on l'a répété encore, que les Bengals reviennent au top, qui sont vraiment l'équipe qui revient un peu de l'année dernière. Ça fait quelques semaines qu'on dit que Baltimore est pas top, il y a des blessés, ils perdent contre les Jaguars, l'attaque est pas aussi bonne que. Et puis on se rend compte que les deux sont au même bilan, que les Ravens ont le tiebreaker parce qu'il y a un match, certes, qu'ils ont gagné plutôt en début de saison, mais pour l'instant, si ça s'arrêtait là, ce sont les Ravens qui seraient premiers de cette division-là, et ça veut dire quelque chose tout de même.
Et puis le calendrier des Bengals, il est un poil plus dur parce que c'est Buccaneers, Patriots, Bills, Ravens. Donc c'est pas joué hein, la division pour cette AFC Nord. En tout cas, ça va être très très intéressant à suivre. On termine avec les Titans 22, Jaguars 36. Troisième défaite de suite pour les Titans quand même, qui s'enfoncent et toujours sur le même mode. Il y a 20-14 pour les Jaguars à la pause, c'est serré. Les Titans sont dans le match parce que Derrick Henry est déjà à plus de 100 yards. Et là, la défense des Jaguars dit. Eh ben on va limiter Derrick Henry. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. 3 yards en deuxième mi-temps seulement pour Derrick Henry. Et là, bah bim, les Jaguars s'envolent, 36-14. Est-ce que ça continue d'être, entre guillemets, encore une fois, énorme guillemets de la taille de Derrick Henry? Est-ce que ça continue d'être aussi simple que ça de stopper Tennessee? C'est-à-dire, bah on dit, on arrête Derrick Henry et puis voilà. Raphaël.
Ouais, en partie, effectivement, le plan de jeu des Jaguars en deuxième mi-temps, c'est résumé à mettre beaucoup de monde dans la boîte et à combler les brèches pour empêcher Henry de passer avec succès. Et forcément, derrière, c'est un peu plus compliqué pour Tennessee. On l'a déjà dit, Ryan Tannehill n'est pas au top cette saison, le play calling n'est pas au top, il n'y a pas vraiment beaucoup de cibles. Alors, ils ont leur jeune rookie tight end hein, qui s'est. Enfin, d'ailleurs, j'en doute sur le fait qu'il soit rookie, mais leur jeune tight end Okonkwo qui se montre un peu ces dernières semaines, qui n'est pas inintéressant. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop limité. Et puis, je trouve aussi que sur les dernières semaines, on parle beaucoup de l'attaque, mais la défense n'est pas non plus. Enfin, 36 points contre les Jaguars, c'est beaucoup quand même. Quand tu prétends à gagner ta division, 36 points. C'est pas. Enfin, du coup, avant, quand à minima, j'ai envie de dire, Derrick Henry avait un peu de mal, tu avais la défense qui resserrait le jeu et qui permettait d'aller gagner les matchs autour de 20 points.
Ah
Bah
bah,
là.
il resserre d'autant moins que zéro sac hein, pour Trevor Lawrence.
Oui, ce qui est d'autant plus. Ouais.
Il reste propre toute la soirée, donc c'est vraiment problématique. Lucas, inquiet du coup plus pour l'attaque ou la défense? Parce que c'est vrai que cette défense, en effet, a piqué du nez aussi. Hein.
Disons que je ne suis pas inquiet pour l'attaque dans le sens où on connaît ses limites de cette attaque et ça fait déjà plusieurs semaines que c'est les saisons, pardon, même j'ai envie de rajouter, que ces limites elles sont là. C'est Derrick Henry uniquement, quasi exclusivement. En plus, AJ Brown est parti donc.
Voilà, j'allais dire l'an dernier, ils avaient Jay Brown quand même.
Voilà, donc il est parti donc c'est encore pire. Et c'est vrai que c'est cette défense-là qui maintenait la plupart du temps cette équipe à flot quand il le fallait. Et j'ai envie de préciser même plus que uniquement la défense, mais la défense contre la passe. Parce que contre la course, je me demande si c'est pas d'ailleurs la meilleure défense de la ligue, ou en tout cas elle doit vraiment pas être loin d'être la meilleure défense de la ligue contre la course. Mais du coup, ben, quand on peut pas courir contre cette équipe-là, on fait des passes. Et quand on voit que ça fonctionne, on continue de faire des passes. Et c'est ce qu'a fait Trevor Lawrence. Le pass rush, tu l'as dit, est un peu moins efficace ces derniers temps, alors qu'il a souvent été très bon. Et les cornerbacks sont un peu exposés et ça donne autant de points contre des Jaguars et qui sont que ça fait beaucoup face à une équipe de Jacksonville comme celle-ci.
Ça fait un très beau match quand même pour Trevor Lawrence. Ils sont un peu cycliques hein, pour le coup, ces Jaguars. Des fois, ils montrent un peu le futur et tu te dis, ça y est, c'est parti. Ça retombe un peu la semaine d'après, mais il faut prendre ces matchs-là. Trevor Lawrence qui signe quand même probablement son meilleur match en carrière. 30 sur 42, 368 yards, 3 touchdowns, on l'a dit, aucun sac, aucune interception. Il fait exploser Evan Engram pour 162 yards, le tight end qui sort le match de sa vie aussi. Bon, là, c'est quand même pas mal, Trevor Lawrence. On commence à voir un petit peu ce qu'on nous avait promis. Et à se dire, ok, l'an dernier, ça avait l'air d'être très compliqué à gérer, mais là, quand on le met dans les bonnes conditions, ça se passe pas mal, Lucas.
Ah oui, clairement, clairement, c'est son record en carrière, 368 yards. Tu l'as dit, il est très bon, il perd pas de ballon. Il est capable de sortir de la poche aussi quand il le faut de manière assez intelligente. Pour le coup, j'ai beaucoup douté de Trevor Lawrence, notamment l'année dernière. Il a montré quelques belles choses en début de saison, de manière cyclique. Il faudra voir si ça continue sur la durée, s'il arrive à être constant. Mais quand on voit un match comme ça, je comprends très clairement pourquoi il a été choisi au premier choix de cette draft-là. Et s'il arrive à maintenir ce niveau-là sur plusieurs semaines et voire même sur plusieurs saisons, ça peut être déjà un joueur très intéressant et très excitant à voir jouer. Et puis ça peut être un joueur qui peut faire gagner son équipe.
C'est vrai que tu parlais de sortir de la poche, j'avais oublié de préciser qu'il a aussi un touchdown au sol. Donc en fait, les 4 touchdowns de son équipe, il est impliqué dessus. Raphaël, c'est prometteur.
Ouais, c'était vrai bon match de sa part, tout en maîtrise, en précision, avec en plus un jeu au sol qui n'a pas particulièrement aidé pour le coup. Donc c'était à la passe qu'ils ont fait la différence. Donc oui, c'est ce qu'on espérait de lui, c'est ce qu'on veut voir plus souvent maintenant. Voilà, c'est deuxième année, très bien, le progrès commence. Disons que l'an prochain, il va falloir que ce genre de prestations, on en voit un peu plus que deux, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça après, c'est la
Mais tant mieux,
régularité.
ça progresse quoi qu'il arrive, il est meilleur qu'en début de cette saison. Donc c'est que la courbe de progression continue et c'est avant tout ce qui est attendu du côté de Jacksonville.
On parlait de montrer et de construire autour de lui, mine de rien, cette défense aussi, elle montre des flashs. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est très épisodique, mais quatre ballons volés, il y a des jeunes joueurs qui jouent bien, il y a quatre sacs, ils ont gagné le combat physique aussi, mine de rien, en défense. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont très prometteurs dans cette défense.
Elle a mis en grande difficulté la ligne offensive des Titans, notamment sur ce match-là. Et en effet, elle a volé des ballons, elle a réussi à provoquer des pertes de balles. C'est ce qu'on demande à une défense, même si en effet ça va progresser et elle n'est pas encore au top. Mais c'est vrai que ça permet d'aider. Il commence à être relativement bien entouré.
Raphaël, Trevon Walker, tout ça, il y a des.
C'est ça, les investissements draft, les autours de choix draft finissent par payer au bout d'un moment. Tant mieux parce que c'est quand même comme ça qu'ils se construisent en grande partie. Donc, même s'il y a eu quelques ajouts intéressants à la free agency. Donc, oui, c'est jeune, c'est prometteur. Là encore, pour moi, c'est work in progress, mais ça va dans le bon sens.
On disait que c'est intermittent, il gagne littéralement un match sur deux depuis 6 semaines. Donc si vous pariez plutôt sur la défaite la semaine prochaine. Ça semble être l'optique. Attends, il joue qui la semaine prochaine? Ah oui, les Cowboys. Donc oui, a priori, vous pouvez probablement parier
Oh,
sur
on
un
sait
jeu.
jamais.
On sait
Attends,
jamais.
vu ce qu'on a vu, ouais, vu ce qu'on a vu
Confère
cette semaine.
le podcast d'hier. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, c'est statistiquement, en tout cas, voilà, on est plus là-dessus. Voilà, en tout cas, pour ce match-là, podcast de débrief un peu plus court, hein, parce que pas énormément de matchs, on n'avait que 9 matchs à traiter cette semaine.
Déjà
Bon,
terminé, ouais.
il y en aura beaucoup plus dans les semaines à venir, puisqu'on revient à 16 matchs par semaine, et
Et
alors
puis.
surtout, éclaté sur tous les jours de la semaine. Hein.
Ouais,
C'est.
franchement, la NFL, pas merci pour ce calendrier, parce que les 2 prochaines semaines, là, c'est.
Ça va être rock'n'roll. Ça va être rock'n'roll. Moi, j'ai fait le deuil de mes week-ends, hein, là, jusqu'à la
Mais
fin de l'année, parce que j'ai même plus de samedi, quoi.
je pense qu'on peut dire aux auditeurs que le samedi 24, ils auront pas dit résumé de match, hein, tu peux déjà leur dire.
Alors, c'est marrant et t'as raison. On va le dire à l'antenne parce qu'on en a parlé hors antenne hier avec Lucas, quand on enregistrait.
Enfin.
Je pense que je vais être a priori seul parce que c'est à peu près normal que tous les rédacteurs fassent leur réveillon, ce que je comprends très bien. Donc moi, je vais sûrement me retrouver seul devant tous les matchs le 24 et donc je vais le faire en fait à l'ancienne, c'est-à-dire je vais faire un résumé de 19 h où je mettrai l'essentiel de chaque match, un résumé de 22 h où je mettrai l'essentiel de chaque match.
Bah oui, hein, je
Et
crois.
voilà. À la fois parce que, un, on n'aura pas de rédacteur et deux, je pense qu'on n'aura pas de lecteur non plus. Parce que
Voilà.
je pense que les gens seront occupés à faire leur Noël et donc je pense qu'on sera sur un menu light sur le site, ouais.
C'est ça, parce que je pense qu'au mieux, comment dire, nos lecteurs seront au mieux sur leur smartphone, discretos à table,
C'est
calés
ça.
entre le verre de champagne et de machin,
À
pour
essuyer des
regarder
regards
discretos,
réprobateurs. C'est ça.
quoi.
Et donc, et je le dis d'ailleurs d'avance, le fauteuil de cette semaine-là, plutôt que le faire le dimanche 25, où on va pas débriefer tous les matchs en fait dans le fauteuil, parce que c'est pas fait pour, on a le podcast pour. Donc en fait, le fauteuil de cette semaine-là sera avancé au vendredi 23. Je vais faire le fauteuil le vendredi 23, ce qui me permettra notamment aussi de profiter un peu de Noël avec ma famille. Je vais pas vous le cacher parce que ça me permet d'éviter d'avoir à faire une émission en même temps, etc. Donc ouais, on va réarranger un peu cette semaine-là parce que ouais, c'est rock'n'roll. Mais tu vois, tu parles de la semaine du 24, mais en fait là, dès le 17, le samedi, il y a des matchs.
Oui, c'est vrai. Non, non,
Donc
mais c'est l'enfer là, les prochaines
ouais,
semaines.
moi
Est-ce que
je.
le week-end de Noël, tu vas quand même demander, parce qu'on peut le dire, tu demandes qui est dispo et qui veut quel match, plus ou moins, et puis il y a une
Alors
répartition, et puis les matchs se font.
par acquis de conscience, je vais demander.
Voilà, et puis tout le monde va se regarder en. Ouais,
Voilà.
bon, bah. Et puis il va y avoir la botte de
Voilà.
paille qui roule dans le désert, ça va être ça.
Je vais demander par acquis de conscience, mais je serais un, très surpris que quelqu'un soit là, et deux, je comprendrais très bien que personne ne soit disponible. Et comme dit, je m'y suis préparé, je vais faire mes petits blocs de
Ouais,
résumé
bah,
avec l'essentiel de chaque match, pour moi aussi faire des allers-retours entre le bureau et la table pour voir un peu si je peux participer à la vie. à la vie de la communauté quand même aussi. Mais voilà. Mais ouais, non, là, je sais pas si j'ai déjà. Moi, mon jour de repos, c'est le samedi. J'ai qu'un jour de repos pendant la saison NFL. Bon, bah là, j'ai même pas mes samedis pendant 2 semaines. Et après, je crois que j'aurai juste le samedi de la semaine 17-18. Et après, rebelote les 2 premières semaines des playoffs. J'ai pas de jour de repos non plus.
Mais peut y avoir des gens sur les matchs de playoff.
Peut y avoir des gens. Il y a moins de matchs en plus. Il y a moins de matchs. Donc voilà. Mais ouais, ça va être intense. On entre dans la dernière ligne droite. Et c'est notamment pour ça que vous allez entendre un petit peu Lucas à ma place à l'animation, notamment dans les jours à venir, la semaine à venir. Parce que du coup, moi, je vais faire Noël des jours qui sont pas Noël.
Dès demain, tu commences Noël.
Je vais commencer Noël avant Noël. Ouais, tu vois, donc pour justement pouvoir être totalement libre. En vrai, le 24, moi, j'aurais rien du tout. Tu vois, je serais tout seul dans mon bureau. Ça va être vraiment festif, quoi. Tu vois, un truc incroyable. Parce que justement, Lucas aura animé une émission pour que je puisse faire Noël un autre jour. Donc voilà. Bon, trêve de vie privée et tout ça. Mais voilà. Donc ça va tourner un petit peu. Vous allez voir, même à l'antenne là dans les semaines à venir. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie de nous soutenir sur Tipeee. Si vous le faites, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui l'ont fait cette semaine. Griff 26, Julien Brossillon, Favre 134, Guillaume Bressan, KNTN, Bourbon Bap, Nico et Nico O et Nico D. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça a tippé les deux Nico à la suite. Les enveloppes partent. On parlait de ce qui se passe hors antenne. Juste avant l'enregistrement de l'émission, Raphaël m'a vu sur Zoom timbrer des enveloppes.
C'est vrai.
Voilà, qui étaient des enveloppes de type. Alors, je m'excuse juste auprès de Julien Brossillon d'ailleurs, qui est dans les trucs. Julien, je suis désolé, je n'ai plus de timbre au moment où on enregistre, donc ton paquet va partir après celui des autres, mais ne t'inquiète pas, il arrive, il faut juste que je réimprime des timbres. Bon, voilà, on fait beaucoup de off aujourd'hui, mais on est un peu large, donc ça va. Merci beaucoup, Lucas, merci beaucoup, Raphaël.
Un plaisir.
Lucas, on te retrouve donc à l'animation demain.
Je garantis rien pour demain d'ailleurs, messieurs, je vous le dis.
Lucas prend les commandes. C'est la Lucas Week qui se termine donc par Lucas prend les commandes, pour vous dire.
Oui, c'est grandiose.
En plus, gros boulot au niveau de l'animation parce que tu dois animer et en même temps tenir Victor Roulier parce que, bon, c'est plutôt. J'adore Victor, c'est facile de tenir Victor en général, mais là vous allez parler des Eagles, donc il faut tenir Victor sur les Eagles.
Oui, je ne sais pas comment je vais aborder la chose. C'est encore en réflexion. J'ai 24 heures, je vais réfléchir à ça.
Bon, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, pour nous suivre, tdactu.com, évidemment, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, à tdactu partout, sauf sur Instagram où c'est TouchdownActu en entier. Et puis voilà, je tourne toutes les plateformes. Ah oui, laissez des étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Voilà. On se retrouve, vous vous retrouvez, pardon. Pas on se retrouve, j'ai l'habitude. C'est la première émission où je serai pas cette année. Ça me fait bizarre, c'est pour ça que j'ai une petite tension. La petite tension de laisser l'émission et la petite tension d'être en plus dans la RATP que Raphaël me vend très très bien sur Twitter depuis des semaines. Demain, ça va être une journée particulière pour moi. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Et puis, on se retrouve très très vite sur les antennes de TDA. Très bonne journée, soirée, tout ce qui se. N'importe quel moment où vous écoutez. Ciao, ciao. Et si vous écoutez dans les transports, bon courage.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.